regrette beaucoup de ne pas avoir davantage prêché sur des textes bibliques. Après, si aujourd'hui je fais ça, ce n'est pas juste pour me rattraper moi. Hein. Il est possible que le Seigneur m'ait conduit à choisir ce psaume et que, comme Farid a prié, que ce soit une bénédiction aussi pour chacune, chacun. Alors, je vais dire un petit mot pour aider chacun à bénéficier de cette lecture, à en recevoir un vrai profit. Vous savez que le Seigneur Jésus, comme tout bon Israélite, il chantait. Jésus chantait. La seule fois où l'Évangile dit explicitement qu'il chantait, c'est précisé qu'il chantait des psaumes. Voilà. Si ça ne m'aide pas à être béni quand je lis un psaume, je ne sais pas ce qu'il me faut. Psaume 25. Je propose qu'on le lise par petit groupe de versets. Le but, je m'explique tout de suite, le but c'est pas de faire ici une étude complète mot à mot du texte. Il y a des temps et des lieux pour ça. Mais de relever un certain nombre de choses. Vers toi, Éternel, j'élève mon âme. On est venu pour ça. Vers toi. Voilà, tout est, les deux premiers mots, ça y est, on est déjà dans le... Là, voilà. L'axe est bon. Vers toi, Éternel, j'élève mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte. Que mes ennemis n'exultent pas à mon sujet. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront pas dans la honte. Ils seront dans la honte, ceux qui, sans raison, sont des traîtres. Voilà, pour le moment, c'est trois premiers versets. Forcément, quand on lit ça, je ne peux pas ne pas me poser de questions. Parce que ça commence, j'allais dire bien, classique. Vers toi, j'élève mon âme, voilà, y a rien d'inédit. Mon Dieu, en toi, je me confie, admirable. Aucune surprise de lire ça dans la Bible. Que je ne sois pas couvert de honte. Et le mot revient trois fois. D'accord ? Le mot revient trois fois. Que mes ennemis n'exultent pas à mon sujet, c'est-à-dire, autrement dit, que je ne tombe pas, que je ne dévie pas, que je ne m'égare pas, que ce ne soit pas la défaite, où vraiment je déraille, et, d'une manière ou d'une autre, et il n'y en a qu'un qui se réjouit de ça, ben, c'est l'ennemi. Mes ennemis, ce ne sont pas des êtres humains. C'est très très clair ça dans le Nouveau Testament. Mais mes ennemis, ben c'est le péché, c'est le diable, c'est le tentateur. L'apôtre Pierre emploie une expression qui aide beaucoup. Il dit dans sa première lettre au chapitre 2 et au verset 11, il dit « Abstenez-vous des désirs charnels ». Donc ça ne veut pas seulement dire physique, sexuel, etc. Ça veut dire tout ce qui est la tendance humaine à mal faire. Donc, abstenez-vous des désirs charnels qui font la guerre à l'âme. Et quelqu'un a dit ce matin que naturellement, on n'est pas plus juste que... Hein, voilà. Donc, oui, le chrétien demeure charnel en partie, c'est-à-dire capable de mal faire. Et cette tendance à mal faire, elle est là en soi... J'allais dire, on la traîne un peu avec, en soi, ça va. Mais il y a des désirs derrière. Et il ne faut pas qu'ils commandent. Parce que ceux qui veulent commander, ils veulent commander pour faire la guerre à mon âme, pour lui nuire. Voilà. Donc, que mes ennemis n'exultent pas à mon sujet. Donc, dans ces trois premiers versets, clairement, il y a quelque chose. Donc, trois fois le mot honte. Et on se dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Là, bon, il est précisé que c'est un psaume de David. David, il n'est pas tout à fait bien, là. Et donc, du coup, c'est encore plus admirable de dire, j'élève mon âme vers toi. Et je me confie en toi. Ça fait drôle quand même de lire. Il est devant son Seigneur. Et puis, qu'est-ce qu'il lui demande? Que je ne sois pas dans la honte. Donc, il voit bien qu'il y a un risque. Et là, ce n'est pas le risque théorique. Je viens de dire qu'on est tous charnels en partie. Donc, ce n'est pas le risque théorique qui chagrine l'auteur ici. C'est sans doute quelque chose de précis, de concret. Il est là, il se sent exposé. Vous voyez ? Que je ne sois pas dans la honte. Et ça, nous chrétiens, il faut qu'on l'entende. Ce qui peut nous aider à le comprendre, c'est... C'est le mot traître, le dernier mot du troisième verset. Quand le contexte ne précise pas de quelle trahison il s'agit, David a été trahi pas mal de fois par pas mal de gens, mais quand le contexte ne précise pas, globalement, dans l'Ancien Testament, la trahison, donc sans précision, c'est trahir l'alliance. Trahir le fait que Dieu soit venu, se soit attaché à son peuple, lui ait fait des promesses, les délivrer d'Égypte, les protéger mille fois, et l'a appelé à le croire, à le suivre, à lui faire confiance, etc. Donc quand il n'y a pas de précision, la trahison, c'est on trahit l'alliance. Et c'est ce que David ne veut pas. Alors, Pardon d'être ému comme ça. L'apôtre Paul écrit, alors c'est pas moi l'apôtre Paul, hein, il n'y a pas de souci. Mais des fois, on leur ressemble un peu, aux apôtres quand même, au moins. Hein. Il écrit, qui est faible que je ne sois faible? Qui tombe que moi je ne sois dans je ne sais plus la suite, dans la douleur? C'est-à-dire, les tentations et les chutes, ou les risques de chute de mes frères et sœurs, sont aussi ma douleur. Et ça exprime quoi? La douleur, ce n'est pas un but en soi du tout, mais ça exprime une vraie fraternité. On est vraiment concernés les uns par les autres, et autant par nos joies, nos victoires, que par nos risques de trahir l'alliance. Le mot ne doit pas nous faire peur, le mot trahir, le mot alliance non plus. Et alors l'apôtre Jean a écrit une chose, dans sa première lettre aussi, au chapitre 2, aussi, le verset 28, et il dit, je vais le lire précisément pour ne pas me tromper. Donc, 1 Jean, chapitre 2, verset 28. Et maintenant, petits enfants, il appelle comme ça tous ceux qui ont cru. Lui, là, il est vraiment âgé, petits enfants, demeurez en lui. En lui, le Seigneur Jésus, afin qu'au moment où il sera manifesté, nous ayons de l'assurance et que, à son avènement, c'est-à-dire quand il reviendra de manière flagrante comme roi céleste éternel, et que, à son avènement, nous n'ayons pas honte devant lui. Vous voyez quand on dit trahir Le souci de David, c'est pas j'ai honte que les autres se moquent de moi, que je suis trop mec, que je suis trop gros, trop comme que je bégaye, que je suis au chômage, je sais pas quoi moi. Il y a des gens qui sont élevés, le moteur de vie c'est la honte. et de peur qu'on se, pour pas avoir honte devant les gens, ben ça les fait travailler, progresser. Bon, ça évidemment c'est un mauvais moteur. C'est pas de cette honte là que parle David, et encore moins l'apôtre Jean. Il ne parle pas de honte devant les hommes, les moqueurs, les mépriseurs, les méprisants. Et là, il parle. Il ne faudrait pas que quand le roi revient, j'ai honte devant lui. Et dans le sens immédiat du verset, honte de quoi ? De ne pas être demeuré en lui. Alors ça ne veut pas dire j'ai abandonné Jésus, ça veut dire j'ai trouvé mon logement, mes valeurs, mes sécurités, mon identité, en grande partie en lui, mais aussi en bonne partie ailleurs, dans l'homme, dans l'image que je donne, dans que sais-je, dans l'approbation, dans être conforme au courant. Et le roi revient, et à ce moment-là, parce que ça, quelqu'un l'a dit ce matin, il dit, nous serons tous jugés. Ceux qui sont en Christ ne seront pas condamnés, mais jugés, oui. Et ça veut dire mis en lumière les choses. Et il apparaîtra. Enfin, voilà. Que je ne sois pas dans la honte. Ce n'est pas de la peur. Il faut pas escamoter ça. Il faut, vous comprenez, il faut pas inventer une nouvelle piété ou un nouvel évangile où c'est interdit de parler de ce qui va pas et que mentionner que Dieu nous jugera, ben c'est pas positif. Enfin, vous comprenez, hein. Voyez ce psaume 25. On le lit avec le Seigneur Jésus. On lit tout avec le Seigneur Jésus. Et que personne ne me dise, mais moi, jamais. Hein. Moi, je ne suis jamais devant, face à une possibilité de déraper, de honte, de ceci, de cela. Moi, c'est toujours, voilà, hein, j'ai 65 ans, on ne me la fait plus. On continue la lecture ? Éternel. Alors je vous rassure aussi, si quand l'heure est à peu près raisonnable, si j'ai pas fini, je m'arrête. D'accord ? Voilà, je pouvais pas aller forcément au bout du psaume. J'aimerais bien sûr, mais sauf si tout le monde renonce au repas. Éternel. Fais-moi connaître tes chemins, enseigne-moi tes voies, fais-moi cheminer dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. En toi, j'espère tous les jours. Versets 4 et 5. Alors là, de nouveau, quelle bénédiction. Qu'est-ce qu'il fait, David ? Il est face à la possibilité de mal. De manquer Dieu. Il ne se plonge pas dans une introspection sans fin. Vous comprenez ? Qu'est-ce qu'il fait ? Donc, on l'a vu, il élève son âme à Dieu, il dit qu'il se confie en Dieu, et puis il prie. Alors, il prie pour être préservé de la honte, on l'a déjà vu, mais aussi, fais-moi connaître tes chemins. Et là, il n'y a pas le sujet, mais fais-moi, c'est toi. Si vous voulez, le premier mot, le sujet est implicite. C'est-à-dire, quand face à quelque risque que ce soit, ou plutôt face à la réalité du péché dans ma vie chrétienne, eh bien, il y a une chose intelligente à faire, une. En plus d'élever son cœur vers Dieu, c'est lui demander de me faire connaître ses chemins. Alors quelqu'un dira, mais je les connais depuis des dizaines d'années. Oui, et David aussi sans doute quand il a écrit ça, puisque tout jeune, il en a vécu des choses avec Dieu, il a même résisté à un lion, à un ours, et d'où à Goliath, plus loin, « Fais-moi connaître tes chemins, enseigne-moi tes voies. » Est-ce que c'est un sujet de prière récurrent pour moi, pour toi ? Enseigne-moi, enseigne-moi, fais-moi connaître tes chemins. C'est à la fois voir, comprendre, expérimenter tes chemins. Comment tu vois les choses ? Mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix sont au-dessus de vos voix, etc. Et fais-moi cheminer dans ta vérité. Alors, j'aime beaucoup ce verbe cheminer. Alors d'abord parce que c'est beau, c'est un beau verbe français. Cheminer, ça veut dire c'est pas à pas. Cheminer, c'est quoi ? C'est marcher pas à pas en suivant le chemin. C'est pas m'ouvrir un chemin dans les taillis. Cheminer, c'est suivre un chemin pas à pas. Et que tu ailles plus vite, moins vite, avec hésitation ou pas, vous comprenez, en bondissant de joie ou avec larmes. On chemine. Et fais-moi cheminer dans ta vérité. C'est la... C'est pour nous amener à ce point que Dieu permet la faiblesse, nous laisse un temps sur terre, un temps alors qu'on est déjà chrétien, nous laisse charnel. C'est-à-dire, n'annule pas le fait que tout en étant une nouvelle créature, nous portons encore la marque du mal et nous demeurons capables de mal faire, de faire du mal. Parce qu'on peut dire, mais pourquoi il nous laisse ? Quand je me suis converti à l'âge de 17 ans, subitement je suis devenu super intelligent et j'ai dit, ah Seigneur, c'est génial, maintenant que je suis sauvé, si je meurs je vais aller dans ta maison, donc le mieux c'est que je meure maintenant. J'étais pas en dépression hein, dans cette période là hein. Je l'ai été avant, je l'ai été après, vraiment j'ai connu ça aussi, mais j'étais tellement intelligent que j'étais devenu plus intelligent que le Seigneur. Parce que lui qui est, lui seul sage, il me laisse sur cette terre souffrir en passant avec plein de grâces, de bénédictions et aussi être heureux de lui et le servir et tout ce qu'on veut. Mais il me laisse avec toutes différentes douleurs, épreuves, mais avec des faiblesses, une propension à être injuste. Je suis capable d'être injuste. De dire des paroles qui ne sont pas justes. Là, je ne parle pas de doctrine. Hein. Pas juste envers quelqu'un, de le blesser. Et des fois, je le fais. Des fois, je dis des gros mots. Hein. Alors que de ma conversion jusqu'à je ne sais pas combien, pendant 20 ans, j'en ai dit zéro. Avant ma conversion, beaucoup. Puis zéro. Et puis là, ça reglisse. Là, je n'invente pas un témoignage pour faire bien, hein. C'est vrai. Je veux dire, là, c'est vrai. Pourquoi il nous laisse en partie faible, en partie charnel, et nous sommes tout à fait tentables et tentés. Pourquoi il nous laisse ? Principalement, non, pour plusieurs raisons, entre autres pour témoigner de lui sur la terre pour les autres. C'est probablement la principale raison. Pour d'autres raisons, parce que c'est son dessein, c'est lui qui voit les choses, mais aussi pour nous amener à ce point. Fais-moi cheminer dans ta vérité. Parce que moi, je vous le dis, si je n'étais pas faible, il y a longtemps que j'aurais arrêté de lui demander de m'enseigner et de m'apprendre. J'ai tellement su, j'ai tellement appris, j'ai tellement lu, j'ai tellement prêché, j'ai tellement écrit. Voyez ? Vous allez dire, mais bizarre ce prédicateur, il est à ce point imbu et orgueilleux. En partie, oui. En tout cas, capable d'orgueil. Là, Paul a écrit des choses étonnantes. Il dit, je me plais dans les faiblesses. Et quand je suis faible, c'est lâche. Pourquoi Dieu nous laisse faibles? Pourquoi Dieu laisse quelqu'un d'aussi brillant et fort que David dans un état qui, en pleine honnêteté, fait dire à ce David que je ne sois pas dans la honte? Pour l'amener au point où elle dit, fais-moi cheminer dans ta vérité. Instruis-moi. Instruis-moi. Alors, ici, là, c'est dans l'Ancien Testament, donc ce n'est pas le même vocabulaire que le Nouveau. Le Nouveau, c'est en grec. Hein. Mais quand vous trouvez le mot instruit dans le Nouveau Testament, c'est un verbe qui a donné catéchiser. Faire la catéchèse, c'est-à-dire enseigner les fondamentaux. Et ils ont été dits ce matin de diverses manières. Paul dit aux Corinthiens, voilà l'évangile que je vous ai annoncé. Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, c'est-à-dire comme c'était écrit. Le troisième jour, il est ressuscité. Et un tel l'a vu. Puis 500 frères l'ont vu, ensemble l'ont vu, etc. Il dit, si vous retenez l'évangile dans ces termes-là, vous êtes sauvés. Sinon, vous avez cru en vain. Et donc, quand David dit « Instruis-moi », il me dit « Mais je n'ignore pas les fondamentaux. » Il dit « Oui, mais jusqu'à mon dernier souffle, mon bonheur, mon privilège, c'est que lui m'instruise encore au sujet de sa croix, au sujet de la puissance de sa résurrection. » Parce que pour écrire quelque chose comme loin de moi de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ par qui le monde est crucifié pour moi comme je le suis pour le monde, Galates 6 verset 14 je crois, pour écrire ça, il faut en être arrivé à ce point. Fais-moi cheminer dans ta vérité, instruis-moi. Ça veut dire, oui, nous avons tous compris un minimum de la croix, sinon nous ne serions pas convertis. Mais nous n'avons pas fini. Et moi, ça m'intéresse que le monde soit crucifié pour moi, c'est-à-dire incapable de m'attirer. Ça m'intéresse que moi, je sois crucifié pour le monde, c'est-à-dire inattirable. Je m'approche de ça. Eh bien, comment Dieu va me rendre inattirable par les séductions du monde et les souillures, etc. Eh bien, en m'instruisant de sa croix et de sa résurrection et du don de l'esprit, les fondamentaux, et de me nourrir de sa parole et d'être reconnaissant, etc. Car tu es le Dieu de mon salut. Voyez, il est le Dieu de mon salut, et pour David, ça veut clairement dire tu m'as déjà sauvé, et sauvé plein de fois. Mais à celui-là, je demande d'être instruit. Parce que je suis apprenti, je suis en train d'apprendre à vivre en sauvé. En toi, j'espère, tous les jours. Donc en un mot, fais-moi connaître tes chemins, enseigne-moi tes voies, fais-moi cheminer dans ta vérité, instruis-moi. En un mot, ben c'est ce qui est écrit là. Suis-moi. Parce qu'on ne chemine pas. Alors, ton chemin, on sait ce qu'a dit notre Seigneur, je suis le chemin. C'est impressionnant. Et attention, hein, le chemin, la vérité, la vie, ça ne veut pas dire trois tiers. C'est la même chose. C'est, si vous voulez, c'est avec la pensée hébraïque où on cumule des mots pour dire une même chose et non pas avec la pensée plutôt occidentale où si on a dit trois mots, c'est trois chapitres. Quand Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie », ce n'est pas trois chapitres. On continue ? Éternel, souviens-toi de tes compassions et de ta bienveillance. Ah, là aussi, il y a Non, je lis les deux versets, 6 et 7. Éternel, souviens-toi de tes compassions, de ta bienveillance, car elles sont depuis toujours. Ne te souviens pas des péchés de ma jeunesse, ni de mes révoltes. Souviens-toi de moi selon ta bienveillance, à cause de ta bonté éternelle. Vous voyez ce double, souviens-toi, ne te souviens pas. Ça fait drôle de dire à Dieu, souviens-toi de tes compassions et de ta bienveillance. Évidemment, ça, quand quelqu'un dit ça, il n'implique pas que Dieu avait oublié. Hein? Mais c'est un homme qui prie. Et l'homme, il est là et il a, lui, il se rappelle des péchés de sa jeunesse. Or, certains, il n'y a plus de soucis avec certains. Vraiment, c'est fini. Mais peut-être d'autres, ils me tentent encore. Et de mes révoltes. Donc, lui, il s'en souvient. Il est là, il s'est dit... C'est bon signe. Si en tant que chrétien, par moment, face à Dieu, tu n'es pas très bien, par rapport à ce qui n'est pas juste en toi, c'est bon signe. Le plus grand malheur pour un chrétien, c'est quand il a des choses pas justes en lui et que devant Dieu, il croit qu'il est bien. Il est content de lui, de soi. Mais là, malheur à ce chrétien-là. Parce que là, il va tomber plus durement que celui qui croit être debout. Vous voyez ? Alors, je ne veux pas dire qu'être conscient du fait qu'avec mes péchés de jeunesse, je n'ai pas tout fini, que ça a une vertu en soi et que s'enfoncer et se culpabiliser soi-même, eh bien, c'est ça qui va me faire progresser. Évidemment, c'est pas ça qu'on veut dire et c'est pas ce que la Bible enseigne. Mais c'est simplement qu'on est vrai devant lui. Non seulement on lui ment pas à lui, mais on se ment pas à nous-mêmes. On dit voilà, Seigneur, il y a ça, où je suis pas bien. Je ne suis pas bien. Et vous savez où c'est qu'il faut... Quand on n'est pas bien, eh bien, il y a un endroit où il faut aller pour être pas bien. C'est devant lui. Parce que être pas bien, caché de lui, c'est on décline. Mais pas bien, et vers lui. Eh bien, voyez ce que ça produit comme psaume. Je me confie en toi, j'élève mon âme, souviens-toi de tes compassions. Et à cause de ta bonté, comme le psaume 23 qui est plus connu que celui-là, et plus court, c'est à cause de ton nom, tu me conduis, tu me fais reposer, tu me conduis vers pâturage, à cause de, mais pas parce que je le mérite plus qu'un autre, à cause de ton nom. Et là, à cause de ta bonté éternelle. Donc en fait, quand je ne suis pas bien, par rapport à quelque chose de réel, évidemment, il ne s'agit pas de me laisser avoir par l'accusateur. Dieu réprimande, Satan accuse. C'est pas pareil. Voilà. Mais quand c'est objectif, que c'est réel, c'est une grâce que j'en sois conscient. Le Saint-Esprit convaincra de péché. Et pour nous chrétiens, c'est pas fini. C'est une grâce que j'en sois conscient et ça me réfère à lui, à sa bonté. Tant que l'un ou l'autre de mes malaises me réfère à lui, me pousse vers lui, super. Parce que c'est le but. Imaginez un chrétien qui a zéro malaise toute sa vie. Objectivement, ce n'est pas qu'il se ment à lui-même, hein, zéro malaise. À la fin de sa vie, ben, si sa vie s'arrête, il meurt et puis il va chez le Seigneur. Ok. Un autre chrétien, il a eu beaucoup de malaise comme ça, conscient de ça, des chutes, des tentations, tout ce qu'on veut. À la fin de sa vie, il meurt et il va chez le Seigneur. Donc le deuxième, qu'est-ce qu'il a perdu par rapport au premier ? Qu'est-ce que j'ai perdu à ce que mes misérables 80 ans, qui sont comme une vapeur qui paraît et qui disparaît, aient été plus durs que tes 80 ans à toi ? Est-ce que je suis perdant? Et ceux qui me connaissent de près savent que je ne dis pas ça parce que je n'aurais jamais souffert, jamais été éprouvé. Qu'est-ce que j'ai perdu? Ce qui m'intéresse, c'est la vraie vie. Ici, je ne l'ai qu'en partie. On continue? L'Éternel, donc verset 8, 8 à 11. L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs le chemin. Il fait cheminer les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles son chemin. Tous les sentiers de l'Éternel sont bienveillance et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses préceptes. C'est à cause de ton nom, Éternel, que tu pardonneras ma faute, car elle est grave. Alors déjà, quel plaisir de relever la répétition du mot chemin, cheminer, tes voies, tes sentiers. On est en route, hein? On est en route. Là, si on n'a pas compris qu'on est en route. Et n'oublions pas que c'est le Saint-Esprit qui fait écrire ça. Donc le moindre mot est à sa place. L'Éternel est bon et droit. C'est la compréhension biblique de la bonté. L'idée que Dieu serait bon d'un côté et juste de l'autre côté, c'est une conception étrangère à toute la Bible. C'est l'un dans l'autre. C'est-à-dire que si Dieu est bon, mais pas juste, vous comprenez, si c'était un autre chapitre, ce ne serait pas vraiment de la bonté pure. Et bien sûr, inversement. Donc, en fait, quand je dis « Seigneur, tu es bon », est-ce que je suis conscient, quand je dis « Seigneur, tu es bon », je suis conscient de répéter des mots qui viennent de lui. C'est lui qui le dit. Et Jésus dit « Un seul est bon ». Mais est-ce que je suis aussi conscient que quand je dis « Seigneur, tu es bon », je suis en train aussi de dire « Seigneur, tu es juste ». On ne peut pas, si vous voulez, vous comprenez? On peut prendre de l'eau et séparer l'hydrogène de l'oxygène, ça on sait faire, mais pas moyen de séparer en Dieu bonté de justice droite. Et juste et droit, mais d'autres mots font, comment dire, nous enseignent comment est Dieu. Alors ce matin, on lit dans Romains 3, Romains chapitre 3, verset 24, je crois par là, 23, 24, 25, que Dieu a justifié le pécheur. Non pas en récompense de sa justice, il n'était pas juste. Il l'a justifié gratuitement parce que Christ est mort à la place de ce pécheur. C'est ce qu'en théologie on appelle la substitution. Le sauveur prend la place, il se substitue au coupable et il est frappé à la place du coupable. Paul précise dans Romains que Dieu a fait de cette manière, c'est-à-dire il justifie le coupable, il sauve le pécheur en frappant son fils, et qu'il fait ça pour être juste, tout en justifiant. Être juste tout en justifiant. Autrement dit, si Dieu, du haut de son trône, avait décrété « Bon, tous ceux qui ont péché, on va faire comme si on n'avait rien vu, et maintenant, c'est OK, vous rentrez tous au paradis. » Eh bien, il n'aurait pas été juste. Parce qu'il se serait renié lui-même. Accessoirement, s'il laisse rentrer au paradis des pécheurs, qu'il n'a pas transformé en juste, mais ça reste plus le paradis longtemps, hein? ça reste plus. Voilà. Donc bon, là, on est en train de dire des, ça tient pas debout ce qu'on raconte là. Hein. Ben, c'est complètement fictif, heureusement. Alors, qu'est-ce que ça m'enseigne sur la croix de Jésus ? Donc, j'espère ne surprendre personne en disant que la crucifixion de Jésus, du Seigneur Jésus, a été un châtiment. Ça s'est écrit noir sur blanc, plusieurs fois. Lui, il lui-même le dit. Et le prophète Ésaïe avait dit des siècles à l'avance, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Parce qu'en général, quelqu'un qui a mal fait et qui a été puni, ben après, il dit, bon, c'est bon, je suis quitte. Ben là, c'est, il a été puni et c'est moi qui suis quitte. Donc c'est ça l'évangile, en fait. Et se convertir, ça veut dire reconnaître ça et le croire. Et remercier Dieu pour ça. Donc, c'est par un châtiment que j'ai été sauvé. Et il était juste que le péché soit châtié. Ça, Dieu le dit d'un bout à l'autre de la Bible. Et la conscience humaine le dit. La conscience humaine le sait et le dit. Ah, j'ai une petite précision à faire, alors tolérez-la. Tolérez-la sans en prendre ombrage, tolérez-la d'un papy théologien. Quand Paul écrit aux Corinthiens que Christ a été fait péché pour nous, ça ne veut pas dire que c'est un hébraïsme, c'est-à-dire, ça veut dire qu'il a été fait sacrifice pour le péché. Il a été fait victime qui va mourir pour le péché. Et donc, explicitement, il est écrit ailleurs, il a porté nos péchés, il les a endossés. Et donc, c'est-à-dire qu'il n'est pas devenu le péché lui-même, le mal, la rupture d'avec Dieu. Christ n'est pas devenu le mal. Vous comprenez donc ? Alors, les mots de la Bible doivent avoir pour moi la signification qu'ils avaient pour leur auteur. Et quand Paul écrit « il a été fait péché pour nous », ça ne signifiait pas pour lui, et encore moins pour le Saint-Esprit qui l'a fait écrire, que Jésus serait devenu le mal. Ça signifie qu'il est devenu la victime qui va mourir pour le péché. Mais alors vous allez dire pourquoi il écrit ce raccourci ? Parce qu'il était habituel chez les Israélites de parler des sacrifices en désignant le dernier mot. Alors il y avait l'Holocauste, le sacrifice pour le péché, le sacrifice expiatoire, et on employait souvent le dernier mot. Et ça résumait tout. Donc on disait... Il a été fait péché, ça veut dire... Ok, je ne me répète pas. Sinon, ça nous embarque dans des spéculations plus philosophiques que bibliques, et on ne sait pas où on va sortir. Donc... Je relis ces versets 8 à 11 et ça sera les derniers, malheureusement. Mais j'ai une bonne nouvelle. Vous pouvez continuer à lire le psaume chez vous. L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs le chemin. Il fait cheminer les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles son chemin. Tous les sentiers de l'Éternel sont bienveillance et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses préceptes. C'est à cause de ton nom, Éternel, que tu pardonneras ma faute, car elle est grave. Alors, il montre aux pécheurs le chemin. Vous vous rendez compte ? Il montre aux pécheurs le chemin. Aux humbles. Deux fois ça revient là. Il enseigne aux humbles son chemin. Il fait cheminer les humbles. Et avec ce qu'on a lu et ce qui suivra, c'est pareil, on voit que David est humble. Il ne fait pas semblant de rien craindre. Dès le début, il dit que je ne sois pas couvert de honte. Alors, pour ceux qui gardent son alliance et ses préceptes, le mot précepte peut aussi se traduire par des témoignages, c'est-à-dire ce dont Dieu témoigne, ce que Dieu affirme, les œuvres qu'il a faites. Quand Dieu dit « Ne vous ai-je pas fait sortir d'Égypte ? » ou quand Jésus dit « Combien de paniers pleins de morceaux vous avez ramenés ?» Vous voyez, voilà, eh bien, il témoigne de ses œuvres, il en parle, il les dit. Et les préceptes de Dieu, ce sont aussi des témoignages. Parce que s'il dit « Honore ton père et ta mère », eh bien, en même temps, il témoigne du fait qu'il a donné la vie par ton père et ta mère et que tu vivras longtemps sur la terre. Il se réfère à comment il a fait lui et comment il fera. Donc, ceux qui gardent son alliance et ses préceptes. Alors, ce verset 11. Aïe, aïe, aïe. C'est à cause de ton nom éternel que tu pardonneras ma faute. Bon, jusque-là, ça va. Et c'est magnifique, cette conviction, cette certitude. À cause de ton nom, tu pardonneras ma faute. Car elle est grave. Alors, peut-être vous direz, moi j'aime mieux le verset 7. Ne te souviens pas des péchés de ma jeunesse, de mes révoltes, ne t'en souviens pas. Donc, genre, peut-être c'est pas si grave. Alors, est-ce que David fait ici à Dieu ? Fait référence à une de ses fautes, à lui, David, plus grave que les autres, que sais-je, je ne sais pas. Évidemment, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que là où Dieu nous instruit dans ses voies, là où il montre aux pécheurs le chemin, là où il nous enseigne ses voies, ses chemins, eh bien, tôt ou tard, il nous apparaît que le péché, c'est grave. Même un gros mot, bien français, qui est dans le dictionnaire. Vous comprenez? Ce n'est pas un fardeau de lire des choses comme ça dans la Bible. Mon âme s'y reconnaît, je m'y reconnais. Et si je m'y reconnais, c'est que Dieu m'a déjà instruit, m'a déjà appris, m'a déjà formé. Le péché, c'est grave. Et pourquoi? Face à quoi il est grave? Face à son nom, pas face aux critères de la société, parce qu'il y a des abominations qu'elle va louanger et des merveilleuses choses qu'elle va vilipender. Vous comprenez? Bien sûr que face à son nom, à sa sainteté, à sa gloire, face à son avènement quand il vient, bien sûr que c'est grave. Et donc, oui, il est possible en tant que chrétien d'être conscient que mes fautes actuelles, je ne parle pas des fautes déjà effacées, ça, faut plus que ça, je dois même plus y penser. Mais les choses qui sont en cours, et il y en a en cours, ne me dites pas qu'il n'y en a pas en cours. Il y en a en cours. Eh bien, c'est une bénédiction pour un chrétien de considérer que c'est grave, tout en gardant un cœur confiant et léger, si vous voulez. Pas la légèreté, la rigolade, c'est pas ça, hein, mais je ne suis pas plombé. C'est ça, c'est peut-être une des grandes leçons de ce psaume. Je peux être en toute conscience devant Dieu, bonne conscience en grande partie, mauvaise conscience en partie, et je ne suis pas plombé parce que je suis devant lui. Je suis pas devant, juste, c'est pas un duo, le péché et moi. Je ne suis pas devant le monde, je ne suis pas devant des juges humains, vous comprenez? Je suis devant le juge qui est mon sauveur. Voilà, pour conclure, je lis quelques versets suivants, mais sans avec zéro commentaire. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre le chemin qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur et sa descendance possédera le pays. La pensée secrète, la communion de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Et cela pour leur faire connaître son alliance. C'est le but des 80 ans, facile ou difficile. Mes yeux sont toujours vers l'Éternel, car c'est lui qui fait sortir mes pas du filet.